Marc, avant de commencer, du coup, ce qui a été prévu d'être dit, parce qu'il y a ce qui est prévu et il y a ce qui n'est pas prévu. Merci pour ta foi, Laurent, d'avoir prié en disant que Dieu avait pourvu de manière particulièrement bonne. J'espère que cette manière sera particulièrement bonne, en tout cas. Merci pour votre prière, votre accueil, pour votre salutation aux uns et aux autres que nous avons déjà eu le temps de rencontrer. Et puis, salutations aussi à toutes celles et ceux que l'on ne connaît pas. Je suis content de voir cette église qui se renouvelle, le peuple de Dieu qui grandit, des jeunes et des moins jeunes qui s'ajoutent à l'église. Et ça, c'est chouette de voir ça. On a été là, c'est vrai, pendant 17 ans. On est parti en 2016, et on revient toujours avec plaisir dans cette église. Et c'est drôle, en fait, c'est vrai, d'être revenu dans la région. Et merci Jean-Marc, parce qu'il y a un effet parabolique, en effet. Il y a une portée, déjà quand tu vois l'image que j'ai choisi de mettre dans ce temps de méditation, Dieu fait bien les choses. Merci. Non, non, pas trop d'émotion, parce que si tu m'en envoies, moi je vais me lâcher aussi, Jean-Marc. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons confesser ensemble que tu es un Dieu bon, rempli d'amour. Tu nous l'as rappelé en Jésus-Christ, parce que nous avons rappelé Noël le mois dernier. Tu es venu pour te donner la vie. Tu veux la multiplier, la transmettre, et tu mets dans les cœurs des uns et des autres aussi des projets. Seigneur, nous te prions pour ce projet, nous te prions pour cette église, nous te prions pour notre pays. Pour ce que chacun vit à droite et à gauche dans les lieux où tu les as placés. Nous sommes tes enfants ensemble. Nous voulons t'écouter. Nous voulons nous laisser nourrir par toi. Et nous voulons te servir aussi avec les dons que tu nous as donnés. Seigneur, je te prie de bénir chacun ici individuellement dans sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie professionnelle et aussi en tant que corps, en tant que ta famille. Seigneur, veuille bénir cette communauté, son rayonnement dans cette ville. En ton nom, Jésus. Amen. Travailler ensemble pour le royaume. Alors, vous avez compris, hein, le conseil a déjà eu le temps de réfléchir, un peu de discuter sur ce projet immersion. Peggy vous l'a présenté rapidement. Une partie de votre assemblée découvre ce projet. Il y a une question de partenariat là que l'on peut faire entre ce que Dieu a planté dans notre tête et puis les églises de France et la vôtre notamment. Et c'est pour ça qu'il y a le mot ensemble dans le titre que j'ai choisi pour ce matin, un ensemble pour le royaume. Et j'aimerais que l'on puisse lire ensemble, du coup, deux textes, un dans les évangiles et un court verset dans les psaumes. Donc, le premier dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, qui dit, donc c'est Jésus qui parle, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, ça c'est extrêmement rassurant quand même. Qui fait partie de ceux qui dorment ou qu'il veille? Bon, d'autres textes bibliques évidemment nous appellent au service et on va y venir. Qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé. D'abord la tige, puis l'épi vert et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille car la moisson est prête. Et le deuxième texte, qui a une coloration aussi très agricole, mais dans un contexte très très différent, on en parlera tout à l'heure, juste deux versets, les versets 5 et 6 du psaume 126. Parfois, il y a dans la Bible des extractions que l'on fait comme ça. On prend un verset ou deux et puis on les donne comme des encouragements, des bénédictions. Celui-là, je crois, en fait partie, alors que le contexte du psaume est très particulier. Nous en parlerons tout à l'heure. Qui sème dans les larmes moissonnera avec des cris de joie. Donc, je le disais, un proverbe ou un encouragement, une bénédiction colorée d'agriculture, qui s'en va en pleurant alors qu'il porte sa semence, reviendra en poussant des cris de joie alors qu'il portera ses gerbes. 17 ans passés avec vous, ça laisse des traces. Et à certains moments de nos parcours, Dieu nous appelle à passer à autre chose. C'est ce qui s'est donc passé pour nous, en termes familial. En 2016, nous avons quitté cette ville, cette région, et à l'époque, nous sommes partis pour un temps de réflexion en Écosse. Nous sommes restés 7 ans à Nice, et là, de nouveau, Dieu nous appelle à quelque chose. Alors, évidemment, Peggy et moi sommes les seuls à qui Dieu parle et qu'il appelle à faire quelque chose. J'aime bien cette façon de parler parce que du coup, vous vous sentez tout de suite concerné, vous savez que Dieu vous parle et vous appelle à faire quelque chose. Peut-être à changer de direction. L'une des choses que j'ai beaucoup apprises dans ces dernières années, ça semble assez évident ce que je vais vous dire, s'il y a des banalités des fois qui semblent évidentes, mais on dit ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, donc je vais le dire. C'est que Dieu parle aux uns et aux autres d'une manière différente. Dans une certaine circonstance, vous allez décoder et vous dire « un Dieu m'a parlé dans cette situation-là, et j'ai compris ça ». Alors que dans la même situation, votre frère, votre sœur, la personne qui est à côté de vous, va dire « mais moi, je n'ai pas vu ça, j'ai appris autre chose ». Grande erreur de rentrer en discussion « non, tu as tort, c'est moi, j'ai compris ça ». Les choses sont complémentaires parce que Dieu parle différemment à chacun, peut-être dans une même circonstance. Et les choses, les paroles de Dieu s'ajoutent les unes aux autres et peut-être que l'on peut bénéficier de ce que l'autre a vécu. Quand nous sommes arrivés en Écosse, j'ai béni le pasteur de cette église à qui j'ai dit « mais vous êtes une réponse à nos prières ». Parce qu'on avait eu des circonstances un peu particulières pour y arriver. Et lui, à mon grand étonnement, de répondre, « Non, c'est toi qui es une réponse à ma prière. » Comment pouvions-nous être une réponse à ses prières ? Dieu le savait. Dieu avait fait converger nos chemins, nos histoires, pour que chacun d'entre nous, nous puissions entendre des choses que Dieu avait à nous dire aux uns et aux autres dans une même histoire, mais avec des backgrounds, des provenances différentes. Encore faut-il, pour que cela se passe, que l'on se mette à l'écoute de Dieu et que l'on accepte cette parole. N'est-ce pas ce qui s'est passé un peu avec Jonas ? La plupart d'entre nous, j'imagine, nous connaissons l'histoire de Jonas. Est-ce qu'il faut, ça m'arrive hein, qu'il y ait dans les églises des personnes qui débarquent là, qui viennent pour les premières fois, qui ont un peu de mal avec des repères bibliques. Je suis prêt à refaire l'histoire de Jonas, est-ce que quelqu'un la veut ? C'est possible. L'église où nous étions avant à Nice, je le faisais régulièrement parce qu'il y avait énormément de nouvelles personnes très régulièrement. Jonas entend la voix de Dieu et dans un premier temps, il refuse de la mettre en application, de l'écouter et de faire ce que Dieu lui demande. Résultat des courses, catastrophe. Pour lui, pour les gens qui sont autour, et catastrophe pour les gens de Ninive, vers qui il était appelé à aller, parce que les gens de Ninive n'ont pas pu bénéficier du message que Jonas avait pour eux. Deuxième appel de Dieu, Jonas obéit, il y va. Je vous la fais courte. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Les Ninivites, les habitants de Jonas, les habitants de Ninive, entendent la parole de Jonas, ils la reçoivent, ils se convertissent, ils se repentent. Et Jonas lui-même comprend des choses que Dieu avait à lui dire au travers de cette situation et au travers des Ninivites. En fait, les uns et les autres apprennent de la situation. Je relisais il y a peu de temps l'histoire d'Élie et de Samuel, le petit Samuel. Élie transmet à Samuel son expérience, mais n'y a-t-il pas aussi Samuel qui dit des choses à Élie du haut de ses 10-15 ans ? Et Élie est appelé à écouter ce que Dieu lui dit au travers de la parole de Samuel. N'est-il pas la même chose avec Pierre et Corneille ? Corneille n'est pas membre du peuple de Dieu, un païen. Issu de l'envahisseur romain, qui plus est. Une relation entre un envahisseur et un envahi, c'est chaud quand même. Pourtant, dans leur relation, chacun des deux apprend de l'autre. Corneille apprend de Pierre et Pierre apprend de Corneille. Quel lien avec les textes que nous avons lus, allez-vous me dire ? Le royaume de Dieu avance et grandit. Dieu est souverain sur toute sa création. Quoi que le semeur fasse, nous l'avons lu dans le premier texte, qu'il dorme ou qu'il veille, la graine pousse. C'est la mécanique de la création et du Créateur qui est au-dessus de nous et qui fait son travail. Dans la parabole du levain, on a un peu la même image. C'est quelque chose de très petit qui semble insignifiant. Le levain dans la pâte est tout petit, voire invisible. Pourtant, il fait lever toute la pâte. Des choses invisibles qui ont une efficacité dans la durée quand on lui laisse le temps. Et là, c'est pareil. La graine qui pousse, qu'il dorme ou qu'il veille, le semeur, quoi qu'il fasse, Dieu fait son œuvre à partir du moment où moi, j'ai fait ce à quoi j'étais appelé. Le royaume de Dieu avance et grandit. Dieu est souverain. Et il nous incombe de faire ce à quoi nous avons été appelés. Vous connaissez ce texte aussi bien que moi, certainement, de Corinthiens. L'un plante, l'autre arrose, l'autre met les olives dans la moutue, dans la saumure, et c'est moi qui les mange. Je n'ai pas planté l'olive, et pourtant je vais la manger, je vais bénéficier du fruit. Mes amis, peut-être vous êtes appelés à recevoir une équipe d'immersion, et vous n'en verrez peut-être pas les fruits. Si vous faites le choix d'accueillir l'une de ces équipes, nous serons, vous et moi, et eux aussi, ces jeunes qui font partie d'une de ces équipes, qui auront eu ce pas de foi de mettre un an de côté pour se mettre à l'écoute de Dieu, nous serons ensemble en train de faire l'œuvre de Dieu, dans un partenariat où l'un sème, l'autre arrose, et un autre récoltera. C'est dans l'obéissance à Dieu, dans le service gratuit que nous nous plaçons. Qui verra les fruits, ce que ça portera ? Dans quel délai les uns et les autres en profiteront-ils ? Franchement, j'en sais rien. Mais est-ce que ce sont les bonnes questions à se poser ? Est-ce que c'est cela l'important ? À ses disciples, revenant de mission, Luc chapitre 10, c'était un truc de ouf. Hein. Jésus appelle les disciples à le suivre. Donc d'abord, ils sont lui devant et eux derrière. Et il dit, suivez-moi. Et à un moment donné, Jésus dit, maintenant on change. Début de Luc chapitre 10, précédez-moi. Donc vous devant et moi je viens après. Moi, c'est un peu le Saint-Esprit. C'est lui l'important. Et ils y vont avec la force que Dieu leur a donnée. Miracles, guérisons, ils chassent des démons, ils sont chauds. Jésus, ils reviennent auprès de Jésus et eux, c'est sympa ici, hein, ça bouge. Ils sont chauds et Jésus est ému de compassion en voyant leur enthousiasme. Et ils ont chassé des démons et il leur dit ceci. Ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, c'est que vos noms soient écrits dans les cieux. Au-delà de tout ce que nous faisons, mes chers amis, au-delà de notre service, au-delà des miracles que l'on pourrait voir, au-delà des fruits que l'on pourrait récolter, ce qui est important, c'est que j'ai dit oui à Dieu et que mon nom est là-haut, parce qu'il m'aime au-delà de tout. Et c'est ça qu'on veut transmettre aux autres. C'est ça qu'on veut faire. Le psaume 126, on y revient. Celui qui sème dans les larmes moissonne avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence revient rempli de joie sous le poids des gerbes. Le contexte de la rédaction de ce psaume, c'est pour évoquer l'exil d'où les Juifs revenaient. Ils avaient été déportés pendant 70 ans. Un petit peu d'histoire. Ça aide toujours, à mon sens, l'histoire, ça aide. 70 ans plus tôt, une partie des parents de ceux qui sont là voient l'envahisseur babylonien arriver. Alors, les Babyloniens, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Hein. Ce n'était pas dans la dentelle. Ils arrivent sur Jérusalem, ils rasent tout. Je reprends mes notes, excusez-moi. Ils vivent, donc c'est Jérusalemite et les deux régions qui sont autour, ils vivent les horreurs de la guerre. Ils vivent l'injustice d'être dépossédés de leurs biens. Ils vivent l'humiliation de la déportation. Ils vivent 70 ans en tant qu'étrangers dans un pays qui n'est pas le leur, avec des traditions qui ne sont pas les leurs et l'adoration de Dieu qui ne sont pas les leurs. Ils ont vécu en terre étrangère. Et voilà qu'un jour, Dieu leur apporte la délivrance. Ils vont pouvoir rentrer au pays, reconstruire leur pays. L'intensité de l'émotion qu'ils vivent au début du psaume 126 est assez étonnante, parce qu'ils disent, ils sortaient avec des cris de joie. En fait, ce qui est exprimé au début du psaume 126, c'est qu'il n'y a tellement pas de mots qu'ils riaient, comme un rire nerveux, quand il y a trop de pression au sortir d'un truc douloureux. Quoi. Ils riaient. Mais pas d'une joie, simple comme ça. Il y avait quelque chose de profondément nerveux qui les faisait exploser. Et c'est dans ce contexte-là de retour d'exil après tout ce qu'ils ont vécu que le psalmiste écrit ceci. Planter des graines, c'est toujours une perte momentanée pour le semeur, un acte de foi. Il y a, je pense, parmi nous un certain nombre de personnes qui sont fans du potager. Quand tout va bien, quand la situation économique est sereine, ça ne coûte pas grand-chose de planter des graines. Et si on en perd quelques-unes, ce n'est pas grave, on va chez Gamme Vert et on en rachète des nouvelles. Mais ce n'est pas ce qui se passe pour eux, pour les Juifs de l'époque. Parce que ce que tu prends dans ta réserve de graines, c'est quelque chose que tu ne mangeras pas. Et quand tu le mets dans la terre, c'est quelque chose que tu acceptes de perdre au risque que ce soit perdu. C'est un risque. Mais il y a une part de foi, parce qu'il y a au-dessus le souverain maître qui gère sa création. Planter des graines, c'est toujours une perte momentanée. Les graines vont être là pendant un temps perdu, je ne les verrai plus et je ne les mangerai certainement pas. Et c'est particulièrement difficile dans les périodes de famine et de restrictions budgétaires. Il s'agit de perdre un peu de ce que j'ai en espérant récupérer plus. Peut-être pas pour moi, mais pour mes enfants, ceux qui me suivront. La foi est un risque. Et c'est ainsi, quelque part, que la vie renaît et se prolonge. Et dans l'Église, c'est pareil. C'est ainsi que le royaume de Dieu avance. C'est Dieu qui est souverain là-dessus. C'est ainsi, j'ai envie de conclure maintenant sur ceci, c'est ainsi que nous pouvons semer ensemble, être prêts à perdre quelque chose, peut-être dans notre agenda, peut-être dans nos finances, peut-être dans le temps que je passerai avec des gens, peut-être dans mes réflexions, peut-être dans le fait de livrer ce que j'ai à l'intérieur. Je vais perdre quelque chose, éventuellement. Mais cette expérience-là, c'est semer pour l'autre. C'est vrai pour immersion et c'est vrai dans chaque circonstance de notre vie. Vous êtes capable de faire la prolongation. Croyant que Dieu va faire fructifier tout ça. Quels seront les germes que les uns et les autres récolteront? Franchement, je ne sais pas. Sous quelle forme sera la bénédiction que Dieu vous accordera de faire ce qu'il vous appelle à faire? Immersion ou autre chose? J'insiste bien, immersion ou autre chose, et surtout autre chose. Quelles sont les gerbes que l'on récoltera après avoir perdu pendant un certain temps le confort dans lequel nous étions et les sécurités sur lesquelles nous nous appuyons. Les gerbes et les bénédictions que Dieu nous accorde, nous ne les verrons que si nous passons par là. C'est fou ça, hein ? Ça c'est notre constatation. C'est que quand je ne joue pas le jeu, je ne bénéficie pas des bénédictions. Je ne sais pas ce que Dieu avait en réserve pour moi quand je n'ai pas mis mes pieds dans la trace des siens. Par contre, voilà, ce que je suis sûr, même si je ne sais pas comment Dieu va vous bénir, ce dont je suis sûr, c'est que Dieu est assez puissant, et ça j'en suis sûr et certain, assez puissant, assez juste et assez rempli d'amour pour combler chacun, jeunes et moins jeunes, de ce dont vous avez besoin. Peut-être certains ici ne savent même pas ce dont ils ont besoin. Mais Dieu le sait. Et il choisit ce chemin-là pour que vous le découvriez. Je continue avec quelques versets des psaumes 127 et 128 qui suivent celui-ci. Et ce sera notre parole de bénédiction. Au moins la mienne, à moins que Laurent en ait une après. Mais en tout cas, je vous laisse ceci de la part du Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever tôt et de vous coucher tard, de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains. Tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Que Dieu vous bénisse.
Je vais demander à l'équipe musicale de me rejoindre. Je vous invite à chanter. Après avoir peut-être juste pris quelques moments pour enregistrer dans votre mémoire ce que Étienne nous a apporté, pour pouvoir y repenser peut-être pendant la semaine ou plus tard. Merci Étienne pour ce message.